Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le fonctionnement des écoles, des collèges, des hôpitaux perturbés aujourd'hui. Pour la troisième fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les fonctionnaires sont appelés à faire grève. Les syndicats affichent un front uni contre l'exécutif, contre le gel du point d'indice, contre les 120 000 suppressions de postes annoncées pour le quinquennat, contre le recours accru aux contractuels. Détail dans ce journal.
Focus notamment sur la fonction publique hospitalière qui sera dans le défilé. Ce sera le thème du billet économique d'Annabelle Grelier à la fin de ce journal.
Auparavant, nous parlerons aussi de l'attente fébrile pour les lycéens et leurs parents. Les 810 000 futurs bacheliers et étudiants en réorientation vont recevoir ce soir les premières réponses à leur souhait d'inscription dans l'enseignement supérieur. Un test pour la nouvelle plateforme universitaire Parcoursup qui a succédé à la très critiquée APB. Washington veut imposer à l'Iran les sanctions les plus fortes de l'histoire. Tout pour que Téhéran se plie à un nouvel accord souhaité par les États-Unis. Analyse dans ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, chocolat, des examens en chocolat, université partielle annulée, reportée, déplacée. On fera le point avec Marie-Caroline Missire, directrice de la rédaction du magazine et des sites internet L'Étudiant.
Des blouses blanches aux côtés des enseignants, de policiers, de cheminots, de gaziers, d'électriciens. Les fonctionnaires sont appelés à descendre dans la rue aujourd'hui dans plus de 130 villes de France. Après les grèves du 10 octobre et du 22 mars, cette fois, les syndicats unissent leurs forces, comme à Paris, cet après-midi, où Philippe Martinez pour la CGT, Laurent Berger pour la CFDT ou Pascal Pavageau pour Force Ouvrière seront main dans la main à 14h, place de la République. Un symbole fort à la hauteur de la casse sociale que prépare le gouvernement, selon les syndicats. Les motifs de la colère des fonctionnaires détaillés par Catherine Pétillon.
Cette fois, les syndicats ont décidé de faire front commun. Contrairement aux journées de grève précédentes, la CFDT et l'UNSA se sont joints à l'appel. Aujourd'hui, ce sont donc les 9 syndicats représentatifs qui appellent à la mobilisation avec les mêmes revendications que le 22 mars dernier. Ces dernières concernent d'abord l'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Les syndicats réclament l'abrogation du jour de carence, de meilleure gestion de carrière et surtout la fin du gel et la revalorisation du point d'indice, ce dont pour l'heure, le gouvernement ne veut pas entendre parler. Plus généralement, cette journée est destinée à protester contre la réforme de la fonction publique engagée par le gouvernement. Les syndicats s'opposent à la suppression annoncée de 120 000 postes d'ici 2022, mais aussi à la rémunération au mérite ou encore à la fusion des instances de représentation du personnel. Point de tension aigu, l'idée d'un recours accru aux contractuels, ce que les syndicats voient comme une attaque directe contre le statut de fonctionnaire. Une concertation sur le sujet a été lancée la semaine dernière entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Plus largement, cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de dégradation des conditions de travail dans de nombreux secteurs, comme les EHPAD, les hôpitaux ou encore l'administration pénitentiaire. De nombreux fonctionnaires s'inquiètent également de l'avenir du service public et sur le nouveau modèle de société à venir. Dans une lettre ouverte, les syndicats appellent les usagers à se mobiliser eux aussi pour, je cite, « défendre une fonction publique qui permet d'assurer l'intérêt général et contribue à la cohésion sociale et territoriale ».
Toute une palette de revendications chez les syndicats de la fonction publique. On l'entendait, pour une hausse des salaires, contre les 120 000 suppressions de postes annoncées pour le quinquennat, contre le recours massif et élargi à des agents contractuels qui sont, pour les syndicats, déjà trop nombreux aujourd'hui, Célia Kiré.
Dans les écoles, les hôpitaux, la police, il y a déjà près d'un agent sur cinq qui est en CDI ou CDD et donc non fonctionnaire. Le gouvernement veut que ces contractuels soient encore plus nombreux. Inacceptable pour les syndicats qui demandent plutôt leur titularisation, comme Jean-Marc Canon de la CGT.
Le gouvernement nous dit qu'il est attaché au statut, mais en fait le statut est pour lui un frein et il souhaite avoir plus de personnel malléable, corvéable. Il y a une intention qui est de précariser le travail et, sans le dire, de mettre fin petit à petit au statut général. Voilà, parce que si demain nous avons 30, 35, 40% de non-titulaires, pourquoi continuera-t-on à avoir un statut général des fonctionnaires ?
Et il est vrai que les contractuels sont souvent moins bien payés que les fonctionnaires. Cet écart est à peu près de 500 euros par mois dans la fonction publique d'État. Et il est encore plus élevé à l'hôpital, par exemple. Emmanuel Florentin représente les cadres de la fonction publique à la CFE-CGC.
On met en évidence des disparités salariales, et encore une fois, pour des mêmes missions de plus de 1000 euros en termes de rémunération, oui, clairement.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, Olivier Dussopt, a bien tenté de déminer. Non, le gouvernement ne remet pas en cause le statut des fonctionnaires. Mais la colère est profonde. Les syndicats veulent des embauches et moins de précarité.
Ils sont 810 000 élèves, plus ou moins fébriles, sans compter leurs parents, 810 000, à attendre ce soir à 18h les premiers résultats de Parcoursup, la plateforme internet de vœux des lycéens dans l'enseignement supérieur l'an prochain. Après le naufrage d'APB l'an dernier, c'est donc un nouveau système qui est mis en place, source d'ailleurs d'un mouvement de protestation ces dernières semaines dans les universités. De nouvelles modalités d'admission analysées par Hakim Kasmi.
Pour les lycéens qui auront la chance d'avoir une ou plusieurs réponses dès aujourd'hui, attention, car ils n'auront qu'une semaine pour réfléchir. Ensuite, ils n'auront le droit de choisir qu'une formation. Mais les candidats auront tout de même la possibilité de cocher une case pour conserver les vœux en attente, au cas où des places se libéreraient dans les filières qui les intéressent davantage. Le cas échéant, ils pourront donc accepter cette nouvelle proposition et se dédire de la première. En cas de oui si, ce qui va principalement concerner les bacs pro et techno, qui choisiront des filières sous tension comme STAPS et Psycho, cela voudra dire que la candidature sera acceptée, mais à condition que l'élève suive un parcours d'accompagnement, qui prendra la forme soit d'une année de remise à niveau, ou de cours de méthodologie lors de leur première année de licence. Sauf que les universités n'auront pas toutes les moyens de mettre en place ce dispositif dès la rentrée, dénoncent les syndicats. Quant aux filières sélectives, comme STAPS, médecine, droit ou BTS, les critères seront encore plus drastiques, puisque les universités tiendront compte désormais de la moyenne générale, mais aussi du type de baccalauréat obtenu. Enfin, avec ces nouveaux critères, le ministère estime que les deux tiers des élèves auront au moins une proposition d'affectation avant les écrits du bac qui commencent mi-juin.
17 articles pour révolutionner le modèle agroalimentaire français. Les députés examinent à partir d'aujourd'hui le projet de loi agriculture et alimentation, fruit des états généraux de l'an dernier. Des objectifs a priori consensuels, assurer une meilleure rémunération aux producteurs et une alimentation plus saine et durable aux consommateurs. Mais pour arriver à un consensus, la route est encore semée d'embûches parlementaires et professionnelles, Pierre Coquelin.
L'un des principaux enjeux, ça va être de mettre d'accord producteurs et grandes enseignes sur la question des prix. Stéphane Travers souhaite une révolution passant par l'inversion de cette construction en partant du producteur, mais aussi l'encadrement des promotions ou encore le relèvement du seuil de revente à perte. Une question qui fait tousser la grande distribution. Michel-Édouard Leclerc craint un gonflement des prix pour le consommateur. Par ailleurs, plus de 2600 amendements ont été déposés par les députés de tous bords politiques, y compris de la majorité. Prévu pour une semaine, l'examen de ce projet de loi risque fort donc de jouer les prolongations. Et puis ce projet de loi, il intervient dans un contexte un peu moins d'une semaine après les déclarations de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, qui se donne jusqu'à l'été pour savoir s'il reste ou non au gouvernement. Voilà qui donne encore plus de sel à l'examen de ce texte qui revient sur plusieurs sujets sensibles comme le glyphosate. Nicolas Hulot a apporté son soutien à un amendement demandant son interdiction, ce à quoi son homologue de l'agriculture Stéphane Travers répond « L'Assemblée nationale décidera ». Un projet de loi qui pourrait très vite se transformé en champ de mine pour le gouvernement.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 7h08 et c'est la suite du journal de Catherine Dutu. En Italie, le président de la République se donne encore un peu de temps pour accepter le nom du chef du gouvernement annoncé hier.
Les chefs de file du mouvement 5 étoiles, parti qui se dit anti-système, et de la Ligue, parti d'extrême droite, ont proposé de faire de Giuseppe Conte, un juriste inconnu du grand public, le chef du futur gouvernement italien. Mais avant de l'accepter, le président de la République, Sergio Mattarella, s'accorde un délai de réflexion et il consulte ce matin les présidents des deux chambres parlementaires, signe d'une tension palpable à Rome. On y revient dans le journal de 7h30. Les plus fortes sanctions de l'histoire, c'est ce que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a promis hier à l'Iran si la République islamique n'accepte pas les conditions draconiennes pour conclure un nouvel accord sur le nucléaire. 12 conditions, comme l'obligation pour Téhéran de reconnaître la dimension militaire passée de son programme nucléaire, cesser aussi tout enrichissement d'uranium et fermer son réacteur à eau lourde, de donner encore aux inspecteurs internationaux l'accès sans condition à tous les sites du pays. Des conditions inacceptables pour l'Iran. La correspondance de Siavosh Ghazi.
Le président iranien Hassan Rouhani a vivement réagi aux menaces de Mike Pompeo en affirmant que le monde d'aujourd'hui n'accepte pas que les États-Unis décident seuls à sa place. Le peuple iranien a entendu des centaines de fois de tels propos et n'y prête pas attention, a ajouté le président Rouhani. L'Iran subit en effet des sanctions américaines depuis près de 40 ans, qui se sont durcies progressivement ces 20 dernières années. Lundi, Mike Pompeo a menacé l'Iran de sanctions les plus fortes de l'histoire s'il ne se pliait pas aux conditions dictées par les États-Unis, qui se sont retirés de l'accord nucléaire conclu en juillet 2015 entre Téhéran et les grandes puissances. Mike Pompeo a dicté 12 conditions, notamment l'arrêt du programme d'enrichissement d'uranium et du programme balistique de l'Iran, le retrait des forces iraniennes de Syrie ou encore l'arrêt de l'aide apportée au Hezbollah libanais ou encore au groupe islamique palestinien. l'Iran compte sur les pays européens, mais aussi la Russie et la Chine, pour contrebalancer les pressions américaines. Différents responsables iraniens ont en effet affirmé ces derniers jours qu'il n'était pas question de renégocier l'accord nucléaire, ni d'entamer des négociations sur le programme balistique de l'Iran, ou encore sur le rôle et l'influence de l'Iran dans la région.
Hier encore, les États-Unis ont infligé d'autres sanctions financières contre le Venezuela, cette fois au lendemain de la réélection contestée du président socialiste Nicolas Maduro, réélu donc jusqu'en 2025. Un scrutin qualifié de farce par le vice-président des États-Unis Mike Pence, et Donald Trump a signé un décret visant à réduire la capacité du régime de Caracas à vendre ses actifs. De la Maison-Blanche à la télévision, l'ancien président des États-Unis Barack Obama et son épouse Michelle se lancent dans la production. Le couple vient de signer un contrat avec Netflix et s'engage à produire pendant plusieurs années pour la plateforme de vidéos en ligne des documentaires et des fictions, Grégory Philips.
Les liens qui unissent le couple Obama à Netflix ne sont pas très surprenants. Le patron de la plateforme, Reed Hastings, est connu pour être l'un des plus gros donateurs californiens du Parti démocrate. Et le 12 janvier dernier, Barack Obama était le premier invité de la nouvelle émission de David Letterman sur Netflix.
Please welcome my next guest. The 44th president of the United States of America.
Mais cette fois-ci, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus officiel. Michelle et Barack Obama ont signé un contrat pluriannuel et s'engagent à produire des séries, des documentaires, des longs-métrages. Le montant du contrat n'a pas été révélé, mais il se chiffre évidemment en plusieurs dizaines de millions de dollars. Pour Netflix, c'est un énorme coût éditorial. Pour le couple Obama, une manière innovante de rester dans la lumière et de continuer à promouvoir des combats qui lui tiennent à cœur. L'ancien président pourrait modérer des débats sur des sujets qui ont marqué ses 8 années de mandat. L'ex-première dame pourrait développer des thématiques qui lui sont chers, comme par exemple la nutrition. Aux États-Unis, rarement politique et télévision auront été autant mêlés. Barack et Michelle Obama deviennent des producteurs, tandis que l'actuel président Trump est lui un ancien présentateur de télé-réalité.
Grégory Philips à Washington pour France Culture. À suivre dans le journal de 7h30, les attentes des élus et des habitants de quartiers défavorisés, alors qu'Emmanuel Macron doit dévoiler ce matin sa vision pour les banlieues. Sa vision et pas forcément des annonces précises.